France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, Michel Perrault ou l'engagement d'une historienne. Il y a 25 siècles, Platon écrivait dans La République « La femme participe naturellement à toutes les occupations, l'homme de son côté participe à toutes également ». Fin de citation. Selon le philosophe athénien, la plus stricte égalité est de mise entre gardienne et gardien de la cité. Comme les hommes, les femmes doivent donc s'exercer à la course, au lancer de javelot, au maniement des armes et s'entraîner à la lutte. Quant à leur formation intellectuelle, rien ne doit la distinguer de celle de leurs homologues masculins. Et tout comme les hommes, les femmes doivent pouvoir accéder aux plus hautes fonctions dans tous les domaines et pour tous les types d'activités. La différence de sexe ne saurait en somme avoir la moindre incidence sur la façon qu'a un citoyen ou une citoyenne d'exercer sa citoyenneté. Dans la société grecque antique où les femmes demeuraient à l'écart des savoirs, du sport et des armes, les propos de Platon marquaient une véritable rupture, au moins dans le monde des discours, mais étrangement, exclusivement dans ce discours-ci. Car comme le fit remarquer Roger Paul-Droit, les autres dialogues de Platon nous chantent une toute autre chanson. On n'y rencontre que des hommes débattant entre eux. Il n'y a que deux exceptions. Dans le banquet, c'est Diotime de Mantinée qui propose ses réflexions sur l'amour. Et dans Ménexène, c'est Aspasie de Milet qui rend hommage aux soldats disparus. Mais à y regarder de plus près, on constate que ces deux femmes ne prennent pas directement la parole. Leurs propos sont rapportés par Socrate, comme si toute voix féminine devait être doublée par une voix mâle. D'où ces questions. Dès lors qu'elle fut longtemps passée sous silence, comment raconter l'histoire des femmes ? Et cette entreprise est-elle plutôt l'affaire des historiennes que celle des historiens ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Michel Perrault. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, professeur émérite des universités, et vous venez de publier aux éditions CNRS Éditions « S'engager en historienne ». Alors vous êtes ici chez vous, Michel Perrault, vous êtes à France Culture, vous connaissez bien cette maison puisque vous avez coproduit l'émission « Les lundis de l'histoire » jusqu'en 2014, une émission qui a été créée en 1966 et que vous avez rejointe, je crois, en
1996.
Oui. Alors, quel était le principe de l'émission ?
J'ai été invité à cette émission, 96 et plutôt 86. En 86, par Jean-Marie Borzex, qui est décédé il y a peu de temps, qui a été un remarquable directeur de France Culture, et les lundis d'histoire existaient déjà, mais il y avait que des hommes. Et notamment, il y avait le grand Le Goff et Roger Chartier, et Jean-Marie Borzex a dit « Mais pourquoi il n'y a pas de femmes ?» Et à ce moment-là, ils ont invité deux femmes, Arlette Farge et moi. Voilà. Et c'est comme ça que l'une et l'autre, nous sommes entrés au lundi de l'histoire, d'abord en collaboratrice, puis très rapidement en ayant la responsabilité de notre lundi. Alors, comme nous étions nombreux, Arlette Farge est partie au bout d'un petit moment, on était quatre en définitive, ça revenait une fois par semaine. Et j'ai eu ce grand plaisir pendant de nombreuses années, presque une vingtaine d'années.
Mais l'idée, c'était d'interroger un historien ou une historienne à propos d'un livre ?
Oui, c'est ça. Le principe, c'était de rendre compte des livres parus. Donc, moi, je m'occupais de l'histoire contemporaine, hein, et je regardais ce qui paraissait, j'invitais tel ou tel, évidemment, pas tout le monde, ça va de soi, mais généralement, pas une seule personne, plusieurs. Et je rendais compte des livres et surtout je leur posais des questions.
C'est comme la conversation
scientifique. J'ai appris beaucoup à dialoguer à ce moment-là. Pour moi, la radio, ça a été très important. très très important. Ça m'a appris, peut-être que j'ai peut-être oublié depuis, la concision, hein, le fait de parler à l'autre. Et j'ai eu beaucoup de plaisir, comme je pense vous l'avez vous-même.
Mais oui, parce que la conversation scientifique est elle aussi construite sur un livre de sciences en général, mais pas que, sciences humaines ou sciences dures. Et d'ailleurs, j'ai une question naïve. Vous dites que vous êtes spécialiste d'histoire contemporaine. Mais pour un physicien, c'est presque une contradiction dans les termes. Comment est-ce qu'une histoire peut être contemporaine ?
Bon, ce qu'on appelle histoire contemporaine, ça c'est le langage des historiens. C'est en gros depuis la Révolution française, voilà. C'est ça l'histoire contemporaine. Vous savez, les historiens ont éprouvé le besoin, peut-être surtout en France, de diviser les périodes, le temps de l'histoire en périodes, voilà.
Vous avez écrit, Michel Perrault, en 2009, un livre qui m'a passionné, qui s'appelle Histoire de chambre, histoire au singulier, chambre au pluriel, qui vous a valu le prix Femina Essai en 2009. Et dans ce livre, on trouve cette phrase: bien des chemins mènent à la chambre, le sommeil, l'amour, la méditation, Dieu, le sexe, la lecture, la réclusion, voulue ou subie. De l'accouchement à l'agonie, elle est le théâtre de l'existence, là où le corps dévêtu, nu, las, désirant, s'abandonne. Or, vous m'avez dit que votre travail aujourd'hui, c'est l'histoire des escaliers. Alors, qu'est-ce que vous diriez sur les escaliers qui ressemblent à ce que vous disiez à l'époque sur les chambres? En quoi les escaliers sont intéressants pour une historienne?
Les escaliers, c'est pas la chambre, c'est le contraire même, puisque dans la chambre on est clos entre quatre murs, dans les escaliers on circule. Donc les escaliers relient des étages, relient des espaces divers, les séparent aussi. Il y a parler dans l'escalier, épier dans l'escalier, les odeurs de l'escalier, les rencontres, les évitements de l'escalier.
L'esprit de l'escalier.
L'esprit de l'escalier. Au XVIe siècle, c'est surtout à partir du XVIe siècle que les escaliers ont de l'importance, à cause du roi. Le roi se présente sur les escaliers, reçoit les ambassadeurs, par exemple. À Versailles, il y a le grand escalier des ambassadeurs. C'est un lieu de prestige, de pouvoir. Et d'ailleurs, si on regarde aujourd'hui les escaliers à l'Élysée, le président de la République reçoit l'hôte qui l'invite sur les escaliers. Et il y a toujours à ce moment-là la poignée de main traditionnelle, le photographe. Quand des vedettes arrivent, elles descendent quatre à quatre ou lentement, ça dépend. Ça dépend justement la rapidité du pas dans l'escalier, c'est très important. Hein. Et de l'avion, la passerelle de l'avion, descendre la passerelle de l'avion avec les gens qui vous attendent, remonter dans l'avion rapidement pour montrer qu'on est en forme. Autrement dit, l'escalier est un lieu social, multiple, à l'opposé de la chambre, c'est pas du tout la chambre, c'est pas pour soi, la chambre c'est pour soi, l'escalier c'est pour les autres.
Joli.
C'est le regard des autres.
Alors comment est-ce que vous travaillez avec des archives? Je vous ai vu monter les escaliers de France Culture à très grand rythme, comme si vous preniez un avion. Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous visitez des cages d'escaliers ou est-ce que vous avez des archives? Comment une historienne travaille avec cette matière-là?
Alors, avec la littérature, davantage. Par exemple, le grand roman de l'escalier, c'est Peau-Bouille, hein, le Peau-Bouille de Zola, qui montre dans un immeuble haussmannien, la plupart du temps, le grand escalier et l'escalier de service. Et là, on voit bien la différence sociale entre les deux escaliers. Mais il y a beaucoup d'escaliers chez Pérec aussi. Hein, Pérec, espèce d'espace, la vie, mode d'emploi, il y a beaucoup d'escaliers. Donc voilà des exemples de romans qui ont posé. D'ailleurs, Pérec dit drôlement, on ne parle pas assez des escaliers.
Et vous allez rattraper la chose.
J'ai un petit peu envie d'aller dans sur ses marches, en quelque sorte, de poursuivre sa montée.
Mais alors, Michel Perrault, il y a une phrase qu'on trouve dans un livre de Schopenhauer qui s'appelle « L'art de vieillir ». Et je voulais avoir votre réaction à cette phrase. Voilà ce qu'il écrit. « Nous avons beau vieillir, nous caressons pourtant en notre fort intérieur la conviction d'être exactement le même que celui ou celle que nous étions dans notre jeunesse, voire dans notre enfance. Cette chose inchangée qui reste toujours la même et ne s'altère pas avec les ans, c'est ce que j'appelle le noyau de notre essence. » Alors vous, comment vous définiriez ce noyau de votre essence? Quand vous voyez une photo de vous-même, enfant ou adolescente, vous dites « c'est moi ». Vous ne dites pas « c'était moi ». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous relie à celle que vous étiez, qui est invariant finalement.
Oui, je ne serais pas complètement d'accord avec le grand Schopenhauer. Dans ma vie, j'ai eu des périodes, mais je pense que c'est peut-être un peu tout le monde, où j'avais le sentiment de changer, de quitter justement ce que j'étais. Le sentiment de rupture. Et puis, à d'autres moments, des périodes beaucoup plus étales, qui correspondent en gros avec ce qu'on appelle habituellement maturité, où au fond, je ne voyais plus le temps passer. Je ne voyais plus. Je ne mesurais plus. Et puis, maintenant que j'arrive dans un grand âge, j'ai à nouveau le sentiment que ça change beaucoup. Je ne peux plus dire que j'étais ce que
j'étais. Mais vous avez remarqué que en français, le sujet du verbe changer, c'est ce qui change pas quand on dit qu'il change. Si je dis que X a changé, à la fin, j'ai toujours X, j'ai pas Y. Autrement dit, quand on dit qu'une chose ou un être a changé, ça veut pas dire qu'il a été remplacé. Ça veut dire que quelque chose de lui a changé, mais c'est toujours lui. C'est ça, à mon avis, que veut dire Schopenhauer.
Oui, peut-être. Alors, en effet, alors.
Donc,
disons que moi, c'est moi.
Alors, vous savez, les physiciens, ils aiment bien faire des expériences de pensée. C'est-à-dire, ils se posent des questions du type « qu'est-ce qui se passerait si on laissait tomber des corps massifs dans le vide ?» Ou bien « qu'est-ce qui se passerait si on était au bord d'un trou noir ?» Donc, ils se projettent dans une sorte d'ailleurs et font ainsi des expériences qu'on appelle de pensée, qui sont plutôt des expériences par la pensée. Alors, je ne sais pas si les historiens font la même chose, mais je vous en propose une d'expérience de pensée. Prenons un épisode de l'histoire dans lequel des hommes et des femmes sont intervenus, ont joué un rôle, et pour lequel on a différents documents et archives à notre disposition. On donne ces documents et ces archives d'un côté à des historiens, de l'autre côté à des historiennes, et on leur demande d'écrire l'histoire de l'épisode en question. Est-ce qu'à votre avis, leur façon de raconter l'épisode sera la même ?
Ça dépend de l'épisode. Ça dépend de l'épisode, bien entendu. Je pense que, en gros, ça peut être la même, mais le regard des historiennes, depuis notamment quelques années, ça a été de débusquer ce qui était caché. Par conséquent, dans certains textes, dans certaines phrases, dans certains épisodes, oui, les historiennes vont se poser des questions. Et notamment, elles vont se poser la question, qui ne se pose pas toujours d'ailleurs, du rapport entre les sexes. Ça dépend si vous racontez une histoire de famille. Eh bien, l'historienne va certainement se poser des questions différentes de l'historien, encore que les historiens maintenant, masculins, ont tout à fait incorporé, ou plus ou moins, le questionnement des historiennes. Mais oui, les historiennes peuvent se poser en effet des questions différentes et chercher à voir autre chose. Voilà. Mais pas pour le garder pour elles-mêmes, pour partager ce regard et dire, justement, dissiper des ombres. Ça a été ça le travail des historiennes. C'est débusquer des choses cachées, ces ombres qui recouvraient des visages qu'on ne voyait pas, des noms qu'on ne saisissait pas. Voilà. Donc,
mais le fait que
la
les
question
historiens
est positive.
Étaient, le fait que les historiens, Michel Perrault, étaient plutôt des historiens mâles,
oui,
ça a créé un biais colossal dans la façon de raconter l'histoire, du coup.
Ah, c'est, oui, absolument. Pendant longtemps, ce sont les hommes qui ont écrit l'histoire. Et c'était d'abord une histoire publique. Hein. Seul le public intéressait d'abord l'histoire, puis progressivement, même assez rapidement, est venue l'histoire privée, et l'histoire privée a fait surgir la famille, les femmes, ça a été donc un sujet important, et puis la présence des femmes elles-mêmes a changé aussi pas mal de choses.
Dans votre livre qui vient de sortir, donc « S'engager en historienne », vous racontez votre histoire personnelle, mais aussi votre rapport à l'histoire, comment vous concevez cette discipline, et vous commencez par dire que vous avez fait vos études au cours Bossuet. J'ai beaucoup aimé l'expression « cours Bossuet tenu par des religieuses de l'ordre de la retraite ».
Oui.
L'expression « de l'ordre de la retraite »,
c'est magnifique.
Ça veut dire quoi? C'est polysémique?
Oui.
C'est
ah
quoi
oui.
L'ordre de la retraite?
Oui, oui.
Ça veut dire quoi?
C'était leur ordre, comme tous les religieux ont un ordre, et la retraite, c'était le nom de leur ordre. Et elle s'appelait en effet l'ordre de la retraite. Et c'était un ordre qui était originaire d'Angers. Voilà, dans l'Anjou, et c'était des femmes, des religieuses avec des grandes cornettes qui leur arrivaient très très loin devant le nez.
Vous dites que vous avez eu une enfance enchantée.
Oui.
Votre père avait fait la guerre de 14-18 dans les tranchées, ce qui l'avait empêché de faire des études longues. Il voulait devenir médecin, je crois.
Si, oui.
Et il refusait de parler de la guerre. Et est-ce que c'est lui ou bien les souvenirs de la guerre que la population avait à cette époque, qui vous a donné le passé à penser, si j'ose dire?
Oui, la guerre a été finalement très présente dans ma vie. La première à cause de mon père, la seconde évidemment. Mais ceci étant, c'était la première guerre, il l'avait fait 4 ans, dans les tranchées, et il en était rentré très révolté. Très très révolté. Et très antimilitariste. Il m'avait presque le seul souvenir qu'il m'ait raconté, car il refusait d'en parler. C'était l'histoire de son capitaine, je crois, avec lequel il ne s'entendait pas du tout. Et au cours d'un bombardement dans la tranchée, le capitaine a été tué. Et mon père me disait qu'il en était joyeux, parce qu'il ne s'entendait pas avec lui. Mais il ajoutait tout de suite « Mais c'est affreux ce que je te dis, c'est affreux. Donc tu ne me parles plus de ça, tu ne parles plus de ça. » Voilà. Et il ne voulait pas en parler, mais je pense que sa personnalité, il était très jeune, il avait 22, 23 ans quand il est parti à la guerre, avait été profondément remodelé par cela. Et quand il est rentré de la guerre, son père à lui est mort de la grippe espagnole en 18. Par conséquent, et ça aussi, ça fait partie des histoires de la guerre. Et mon père voulait faire sa médecine. Sa mère lui a dit à ce moment-là, écoute, moi je peux pas te payer des études de médecine, faut que tu travailles. Donc c'est ce qu'il a fait. Mais il en a eu comme un regret, toujours. Hein. Et il n'a jamais au fond vraiment aimé ce qu'il a fait par la suite. Il était devenu marchand de cuir, bon, et il a fait ça très bien, mais ça lui plaisait pas tant que ça. Et du coup, quand la question pour moi s'est posée, qu'est-ce que tu veux faire, il me disait, mais pourquoi tu ferais pas ta médecine? C'est bien la médecine, c'est bien. Hein. Et mon père me poussait beaucoup à faire des études. Il avait d'ailleurs pas besoin de me pousser. J'étais tout à fait déterminé à ça. Mais des études longues, il trouvait que c'était bien et que la médecine pour une femme, c'était bien. Il trouvait ça très bien.
Mais vous n'avez pas fait médecine.
J'y ai pensé, mais j'ai demandé un petit peu conseil à mes professeurs de sciences au cours Bossuet, qui n'étaient d'ailleurs pas les religieuses, qui étaient des étudiantes qui venaient là. Et la prof de sciences nat m'a dit gentiment « Oh Michel, vous n'êtes pas assez bonne en sciences, faites autre chose, vous êtes plutôt littéraire. » Et du coup, j'ai pas insisté. Après tout, je me suis dit, elle a raison, j'aime écrire, j'aimais déjà beaucoup écrire à cette époque. La littérature, c'est bien. Les lettres, c'est bien.
Michel Perrault, Il y a eu donc la Première Guerre mondiale par le biais de votre père, la Seconde évidemment, qui vous a marqué de mille et une manières. Vous racontez notamment un épisode en 1940, je crois, vos parents avaient déménagé à Montmorency. La maison a été occupée par les Allemands et vous êtes retourné la voir en compagnie de votre mère. Votre père avait refusé de se rendre chez lui, en quelque sorte. Et vous dites, je me souviendrai jusqu'à la fin de mes jours du sentiment profond d'humiliation quand j'ai escorté ma mère, une belle et jeune femme, au milieu de ces Allemands qui la scrutaient. J'ai senti à ce moment-là le regard de l'occupant sur un corps qui pouvait être occupé.
Oui. Ah oui, oui, bien sûr, c'est un épisode dont je me souviendrai jusqu'à mon dernier jour, si l'on peut dire. Nous étions partis, comme beaucoup de Français, en exode. Et quand nous sommes rentrés, la maison des mauvais Français, comme on disait à l'époque, que nous étions, était occupée en effet par les Allemands. Et il fallait essayer de récupérer cette maison. C'est pas mon père qui n'a pas voulu y aller, c'est ma mère qui n'a pas voulu. Ma mère lui a dit, tu n'y vas pas, parce que tu vas te mettre en colère, et ça se finira mal. Donc, j'y vais. Mais mon père était quand même très anxieux de la voir partir seule comme ça. Et il a dit, bah, Michel va aller avec toi. Et donc, je suis allé avec ma mère, en effet. Et c'était arrivé dans cette maison, voir les Allemands qui étaient là, qui avaient mis déjà pas du désordre, enfin, pour ma mère, qui avait beaucoup de soins, beaucoup de... Elle a été très très bouleversée, et vous imaginez bien que venir là en disant « vous êtes dans notre maison, mais on voudrait... » Et avoir été traité... C'était l'époque où les Allemands étaient, comme on disait à l'époque, « corrects ». Hein, c'était la phrase de l'époque. Ils devaient être corrects avec ceux qu'ils occupaient. Donc, on n'a pas été reçus de manière brutale, pas du tout, mais très condescendante. Et encore une fois, ma mère était jolie, elle était élégante. Et j'ai senti ça, ce monde des hommes occupants, la regardant avec cette espèce de... Oui, de condescendance amusée d'une certaine manière, et puis en disant « oh ben elle est pas mal », enfin on sentait qu'il disait ça. Oui, c'était tout à fait humiliant. C'était humiliant et troublant.
Est-ce qu'on peut dire, Michel Perrault, que c'est de la guerre, de la deuxième, donc, qu'est né chez vous ce que vous appelez votre désir d'histoire ? C'est-à-dire quand un monde s'écroule, on a besoin de comprendre ce qui s'est passé. Donc,
oui, certainement, la guerre a joué un grand rôle dans mon choix, certainement. Ceci étant, j'avais été éveillée à un sentiment historique au cours Bossuet. Au cours Bossuet, nous avions des professeurs qui venaient de l'Institut catholique et qui étaient évidemment bien au-dessus du niveau de nos professeurs habituels. Et il y en avait un qui nous parlait de l'histoire de la Bible. Et dans ces années-là, il y a eu la découverte des manuscrits de la Mer Morte, qui a été un événement important du point de vue de l'histoire biblique et même du point de vue archéologique, en quelque sorte. J'avais trouvé ça fascinant.
C'est en quelle année, ça ?
C'était dans les années 40, vers 42, 43, par là, 44, vous voyez. Et donc, c'était très, très intéressant de voir comment on pouvait découvrir des vieux papiers, comme ça, des vieux papyrus. Il y avait des traductions en grec, hébreu et araméen. Et par conséquent, le fait d'avoir trois langues sur un seul texte, ça avait permis des tas de choses à des gens qui étudiaient la Bible. J'avais trouvé que c'était vraiment tout à fait passionnant, et l'histoire, c'était bien. Mais bien entendu, c'est pas cela qui m'a déterminé, c'est beaucoup plus la Deuxième Guerre. Et le fait que on pouvait sans doute, avec l'histoire, comprendre ce qui nous était arrivé. Voilà. Parce que ce qui nous était arrivé, qui m'avait saisi, moi, dans mon adolescence, j'avais 12 ans quand la guerre a commencé, j'en avais 16 quand elle s'est terminée, c'est vraiment l'adolescence, ça avait complètement bouleversé la vie de ma famille, de la France bien sûr, et de ma vie à moi. Hein. Et par conséquent, j'avais envie de comprendre ça, oui, c'était important.
Donc vous avez passé l'agrégation d'histoire en 1951.
Oui.
Combien il y avait de candidats masculins et féminins pour à l'époque en histoire?
Nous avions des agrégations séparées à l'époque. Hein.
Et c'était quoi l'idée de les séparer?
Les séparer parce que les femmes enseignaient dans des lycées de filles.
Mais le cursus était le même. Les programmes étaient les mêmes.
Oui, presque, à peu près. Pour les filles, il y avait de la géographie. Il n'y avait pas pour les garçons. Parce que les filles, l'agrégation des filles était considérée évidemment comme menant uniquement à l'enseignement de lycée. On n'envisageait aucune perspective universitaire. Tandis que les agrégés masculins, on pensait que beaucoup d'entre eux iraient à l'université, beaucoup. Donc s'ils voulaient se spécialiser en histoire, eh ben voilà, on les laissait se spécialiser en histoire. Tandis que les filles, elles seraient professeurs d'histoire et de géographie. Donc c'était.
Est-ce qu'il y avait une agrégation de géographie pour les garçons?
Oui. Absolument. Il y avait une agrégation de géographie pour les garçons.
Les filles étaient plus polyvalentes que les garçons.
Oui, oui, tout à fait. Les filles étaient plus polyvalentes. Ceci étant, on marquait bien la différence entre les deux. Par exemple, à l'oral de l'agrégation, ça se passait pour les garçons à la Sorbonne, avec un public qui venait les entendre. C'était, dans ma génération, Fernand Braudel, grand historien, qui présidait le jury. Et nous, les malheureuses filles, on allait au lycée Victor Duruy, hein, avec des gens que personne ne connaissait, qui étaient des inspecteurs généraux, et qui, il y en avait un qui dormait d'ailleurs, je me souviens, pendant que je faisais ma leçon, hein, et personne ne venait nous voir, alors absolument personne. Donc on avait le sentiment qu'il y avait deux concours séparés, que l'agrégation des garçons c'était prestigieux et que nous, c'était moindre.
Bon, vous passez donc l'agrégation, je l'ai dit, en 1951, vous enseignez dans un lycée à Caen.
Oui.
Mona Ozouf, votre grande collègue, est aussi mutée à Caen.
Oui, ah oui, on a fait une petite bande, on a un trio en vérité, parce que il y avait Mona Ozouf et il y avait Nicole Ledouarin. Nicole Ledouarin qui a été une grande biologiste, qui a eu des prix absolument formidables. On a même parlé du Nobel pour elle à un moment donné, qui était plutôt spécialiste génome, enfin. Moi, je connaissais pas grand-chose à tout ça. Elle me racontait beaucoup ses expériences sur les embryons de poulet. Et moi, je me demandais bien ce qu'on pouvait faire avec l'embryon de poulet. Ça m'étonnait toujours beaucoup. Nicole a été formidable, elle l'est toujours. Et Mona Ozouf, qui est... Tout ça, c'est rester des amis pour la vie, absolument. Hein. Nous faisions toutes les trois nos débuts. Là, à Caen. Moi, j'étais arrivé 2 ans avant elle. J'étais un petit peu l'aîné, si on peut dire. Et ensuite, on est devenus des amis et nos couples sont devenus des amis aussi. On était 3 couples comme ça et on faisait une petite bande. On sortait, on discutait. On avait les mêmes opinions politiques. On était tous engagés contre la guerre d'Algérie. Voilà, donc c'est une très très bonne période, c'est une période formidable et même, je dirais que ces quelques années, qui ont duré pour moi 7 ans et pour les autres peut-être un peu moins, ça a été des années parmi les plus riches de ma vie.
C'est là en tout cas que vous décidez à Caen d'engager un travail de thèse sur le mouvement ouvrier. Entre 1870 et 1890, il faut être précis. Qu'est-ce qui, à Caen, a éveillé en vous ce désir, cette vocation même?
Ça vient d'avant, et ça vient à cause d'Ernest Labrousse. Alors, Ernest Labrousse, en 2 mots, c'est celui qui a introduit, et c'est pas rien, en France, dans l'université, l'histoire économique et sociale, qui n'existait pas, hein. Qui n'existait pas. Dans les années 50, 1950, ça n'existait pas. Et Il a eu évidemment énormément de succès, d'abord parce que c'était un très bon professeur, et puis parce que ça correspondait tellement à l'ère du temps. On se posait, après la libération, des questions économiques et sociales. Alors, c'est lui que nous allions voir dès qu'il s'agissait de faire un mémoire de maîtrise, et c'est ce que j'avais fait. Et la Brousse avait été très contente de mon travail, et il m'avait dit, il faut continuer. C'est lui qui m'a véritablement poussé à faire des recherches. Et j'avais d'ailleurs pensé à faire des recherches sur le féminisme au début. Parce que, en 1949, le deuxième sexe de Simone de Beauvoir venait de paraître. Et il avait trouvé quand même que c'était, bon, il m'avait dit, mademoiselle, vous ne ferez pas carrière avec ça. Et m'avait dit, travaillez donc sur, si vous voulez, sur les grèves. Il n'y a pas grand-chose qui a été fait sur les grèves. Alors, c'est comme ça que je me suis engagée.
Mais alors, pourquoi cette période 1870-1890? En 1870, vous me corrigez si je me trompe, hein, il n'y avait pas de syndicat encore.
Non, bien sûr.
Pas de syndicat ouvrier.
Bien sûr.
Donc, comment ça s'organisait, les grèves?
C'est justement ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de voir les grèves émergeant du monde ouvrier lui-même sans organisation. Voilà, sans mot d'ordre, sans organisation, parce que dans le fond, les grèves pour moi, c'était un moyen de saisir la vie ouvrière, dont on parlait peu, la parole ouvrière qui était ignorée, et saisir cette parole dans sa spontanéité, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. C'est pour ça que j'avais choisi cette période.
Vous avez parlé, Michel Perrault, de la guerre d'Algérie. Vous avez fait partie du comité Audin,
oui.
Maurice Audin, le mathématicien qui a été tué par l'armée française. Oui. Et vous avez milité pour la paix en Algérie. Vous racontez, je vous cite, « Nous sommes parvenus, au féminin, c'était que des femmes, à réunir une centaine de personnes environ pour défiler dans les rues de Caen jusqu'à la préfecture en criant « À bas la guerre d'Algérie !» Le tout sous le regard un peu goguenard du commissaire de police, courtois et paternaliste, qui, à chaque coin de rue, nous disait « voyons mesdames, dispersez-vous, dispersez-vous !» Donc, il y avait des manifestations de femmes
oui,
contre la guerre
absolument.
D'Algérie.
Oui, 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 à Caen, j'étais à ce moment-là très à gauche, j'avais adhéré au Parti communiste, parce que j'espérais que le parti, nous espérions, je devrais dire, parce que c'était notre petite bande, que le Parti communiste lutterait contre la guerre d'Algérie. Certes, il l'a fait, mais modérément quand même, parce que il avait un peu peur que l'opinion publique n'avait pas très envie, les mondes ouvriers n'avaient pas tellement envie de s'engager pour ça. Et j'appartenais à l'Union des femmes françaises, qui était l'organisation de masse, comme on disait, des femmes pour le Parti communiste. Et j'avais dit, mais on devrait faire quelque chose contre la guerre d'Algérie avec les femmes. Oh, les dames m'avaient dit, oh ben, on va peut-être tricoter pour les petits Algériens. Hein. Oh, moi, je tricot, ça m'intéressait pas du tout. Alors là, vraiment pas. Et j'avais dit, mais on devrait faire une manif. Ah, oh, une manif, mais avec qui? Hein. Il y avait pas beaucoup de femmes au Parti communiste. Alors donc, il a fallu aller sur ce qu'on appelait le plateau. Alors le plateau, c'était à côté de Caen, il y avait quatre communes qui étaient autour des hauts fourneaux, les hauts fourneaux de la Société métallurgique de Normandie. Là, il y avait une population ouvrière, il y avait peut-être 3 000-4 000 ouvriers, donc ça fait quand même une population ouvrière importante. Donc on avait été, je dis on, avec la secrétaire de la femme du secrétaire de notre section, et on avait été chercher voir les femmes des camarades, hein, qui n'étaient pas du tout enthousiastes, hein, elles n'avaient pas du tout envie de défiler, pas tellement pour elles, mais parce qu'elles avaient peur que leur mari soit renvoyé de l'usine si on apprenait que les femmes allaient manifester. Je pense qu'elle se trompait, mais enfin, peu importe. Et on a fait cette petite manifestation, pas bien extraordinaire, 80 personnes, 100 à tout casser, vraiment. Et en effet, et ce qui est très drôle quand même, c'est que ça s'était su, tout se savait. Hein. Et j'avais été convoquée à la préfecture. J'avais été très courtoisement, on m'avait demandé de venir à la préfecture et j'avais été reçue par le secrétaire de la préfecture de Caen, du Calvados, qui m'avait dit « Madame, j'étais mariée à cette époque-là, je me permets de vous faire remarquer que vous êtes professeur et nous savons que vous prévoyez une manifestation de rue. Est-ce que vous pensez que c'est bien convenable pour vos élèves ?» Il m'avait évidemment rien interdit, mais il avait essayé de me dissuader de faire cela. C'était quand même étonnant, enfin. C'était étonnant, d'abord parce que ça se savait, et puis ensuite, cette démarche me paraît rétrospectivement tout à fait surprenante. Et je pense que c'était une démarche un peu paternaliste, voyez.
Vous c'est êtes le mot que vous utilisez dans votre livre hein, pour qualifier l'attitude du préfet de police ou bien d'autres personnes qui vous ont vu manifester.
Oui, y compris les commissaires de police, le commissaire de police. Il y en avait qu'un qui regardait notre manif et qui nous disait « Mesdames, dispersez-vous, dispersez-vous
». Michel Perrault, vous avez vécu tellement de choses que je ne sais plus par quoi continuer. Mais il y a quand même l'épisode mai 68 que vous avez vécu évidemment de très près puisqu'à l'époque vous étiez à la Sorbonne.
Oui.
Et vous dites dans votre livre, j'aimerais avoir votre explication parce que vous êtes assez laconique. Vous dites, mai 68 a influé sur mon écriture. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et plus, je dirais que mai 68 a influé plus sur ma perception des choses que sur l'écriture elle-même, encore que l'écriture étant une traduction de la pensée et de la recherche, ça va ensemble. Ça m'avait rendu beaucoup plus sensible encore, car je l'étais, à la grève comme mode d'expression ouvrière. Parce que vous savez, la grève, c'est plusieurs choses. C'est un moyen de pression pour obtenir quelque chose et c'est un mode d'expression. Et dans la grève, les ouvriers, surtout autrefois, puisque justement, ils n'avaient pas d'organisation centralisée, ils s'exprimaient. Or, 68, qu'est-ce que c'est? C'est une expression. C'est une prise de parole. On en a beaucoup parlé. Et du coup, la notion de prise de parole, la notion de geste, la notion de manifestation du corps dans la rue, toutes ces choses qui sont tellement vibrantes dans mai 68, je les avais vécues en tant que participante à 68, et comme j'étais en train, à ce moment-là, d'écrire ma thèse, car j'écrivais à ce moment-là, ça m'a rendu la grève comme effervescente. Hein. Je la voyais plus seulement dans mes archives, je la voyais parce que je la vivais. Parce que il faut pas oublier que 68, ça a été un mouvement étudiant, intellectuel, mais ça a été aussi la plus grande grève des temps contemporains.
En nombre de personnes, en nombre de grévistes et en durée, je crois, non?
Ah oui, c'est considérable. Oui, c'est vraiment tout à fait considérable. Donc, ce monde ouvrier contemporain en mouvement me rendait encore plus perceptible et sensible le monde ouvrier d'autrefois. Et j'avais envie de leur donner encore davantage la parole.
Mais vous dites dans le livre, Michel Perrault, que vous êtes sensible à la hiérarchie des classes. Mais les classes, c'est pas la même chose que le genre entre les hommes et les femmes, par exemple. Est-ce que les deux choses sont distinctes pour vous? Est-ce que vous projetez sur elles les mêmes grilles d'analyse?
Les choses sont distinctes, même si après on les croise. Hein. Vous savez, après la libération, dans les années, mettons largement, dans les années 60, quand je me mets vraiment à ma thèse à ce moment-là, c'est le social qui m'intéresse. Les femmes m'intéressent pas. Très curieusement, les femmes m'intéressent pas. Je ne vois pas l'inégalité sexuelle, même si je suis une lectrice fervente et séduite de Simone de Beauvoir. Mais c'est pas un objet d'histoire. Pour moi, ce qui est important, c'est l'inégalité sociale. Voilà. L'inégalité sociale, la classe ouvrière. Qu'est-ce que c'est que la classe ouvrière? Et moi qui suis une bourgeoise, c'est de ça que j'ai envie de parler, tout à fait. Mais, bien sûr, à partir des années 70, le mouvement de libération des femmes, et à ce moment-là, J'y entre, j'y manifeste, j'y participe, et je me pose la question, mais qu'est-ce que je raconte sur les femmes? Rien. D'où mon, à ce moment-là, c'est un petit peu mon chemin de Damas, si vous voulez. C'est comme Saint Paul sur le chemin de Damas. Je me dis, oui, il faudrait que j'en parle à ce moment-là. Alors, vous me posez la question du social et du sexuel. Bien sûr, il faut les croiser. Parce que c'est pas du tout la même chose d'être une femme bourgeoise, intellectuelle, et une femme ouvrière ou paysanne.
Vous les croisez dans votre livre, si je peux vous interrompre, Michel Perrault, vous écrivez, après justement Simone de Beauvoir et le deuxième sexe, la libération sexuelle ne profitait pas aux femmes, voire même elle renforçait les inégalités.
Oui, c'est possible.
Entre les classes.
Oui, absolument. Oui, oui, parce que les femmes qui se sont libérées, ce sont d'abord celles des classes les plus aisées, quand même. Hein. C'est quand même là que naît le féminisme, avec pas forcément une grande bourgeoisie, mais les classes moyennes. Hein. Les classes moyennes, notamment avec celles qu'on appellera ensuite les intellectuelles, etc. Et dans la classe ouvrière, classe paysanne encore moins peut-être, il n'y avait pas véritablement de mouvement de libération. C'était vraiment très secondaire. Donc, c'était en effet important de croiser les deux en histoire, de percevoir qu'est-ce que c'est que d'être une ouvrière. Qu'est-ce que c'est que d'être une ouvrière? Et si le silence règne pour les femmes en général, il est encore bien plus pesant pour les femmes ouvrières. C'est très difficile de trouver un témoignage d'une femme ouvrière. C'est très difficile. J'ai écrit beaucoup plus tard un petit livre sur une ouvrière, Lucie Beau, pour laquelle j'ai fini par trouver des traces bien difficilement. Mais c'est difficile. Elles ne témoignent pas. Elles n'écrivent pas. Et leur parole n'est pas tellement entendue non plus.
Alors vous avez travaillé aussi sur des femmes encore plus marginalisées, si je veux dire, les femmes en prison, et les prisons tout court, donc des endroits d'interface.
Oui, oui.
Et vous avez rencontré Michel Foucault.
Oui, absolument.
Comment est-ce qu'il vous a accueilli, lui qui venait de publier « Surveiller et punir » ?
Surveiller et punir, Naissance de la prison, qui paraît en 1975, c'est un très grand livre. Hein. C'est un grand livre sur la prison, mais c'est aussi un très grand livre sur la discipline. Puisque, à travers la prison, dont Foucault dit qu'elle est un mode de gestion des illégalismes, c'est ça sa définition, il montre un petit peu comment fonctionne le pouvoir. Alors, il se trouve que à ce moment-là, d'abord, il y avait des révoltes dans les prisons. Il y a eu Attica, aux États-Unis, en 70-71. Il y a eu des révoltes en France. Et ces révoltes dans les prisons, monde ordinairement silencieux...
Caché.
Hein, ont eu beaucoup de retentissements. Les journaux en parlaient beaucoup, beaucoup.
Je m'en souviens.
Oui, c'était tout à fait impressionnant. Et donc, il y avait... Les historiens aussi se sont mis à travailler sur les prisons, et moi, j'ai beaucoup de... me suis mise à travailler aussi là-dessus. Donc, j'avais écrit quelque chose, j'avais fait une communication, Foucault était venu à une réunion du CNRS d'ailleurs, pour écouter ce que je racontais, et puis il m'avait dit, écoutez, ça m'intéresse. Parce que les prisons m'intéressent beaucoup. Et c'est comme... Est-ce que vous pouvez m'envoyer votre texte ? Bien sûr, monsieur, bien sûr. Donc, je lui avais envoyé mon texte. Et ensuite, il m'avait téléphoné pour me faire des remarques, d'ailleurs. J'avais écrit dans ce texte qu'il y avait un échec de la prison. Parce que je trouvais qu'au XIXe siècle, au point de départ, il y avait des réformateurs qui voulaient faire de la prison un mode de réinsertion dans la société. Et Foucault m'avait dit, mais la prison n'échoue pas. Elle n'échoue pas, elle est un mode de gestion des illégalismes. Autrement dit, elle est faite pour ça. À la limite, elle est faite pour éliminer. Elle est faite pour exclure. Elle n'est pas faite pour réintégrer. Et on avait évidemment beaucoup discuté. Parce que moi, j'étais pas complètement d'accord non plus avec ce point de vue.
Mais ça pose ensuite une question qui est comment est-ce qu'une société dite républicaine définit sa délinquance.
Ah, ça, c'est Badinter.
C'est l'expression prison républicaine qu'a inventé Robert Badinter.
Oui, oui, oui. Badinter, comme tout le monde connaît son rôle, évidemment, dans l'abolition de la peine de mort et comme ministre de la Justice, mais il avait été avocat. Il connaissait les prisons. Et les prisons étaient une grande préoccupation pour lui. Donc, j'ai reçu un jour, je raconte ça rapidement, un coup de fil de son cabinet. C'était en 86. Et il voulait parler avec moi, enfin bon. Et il me dit, voilà, ce que je fais ne me satisfait pas complètement. Il était président du Conseil constitutionnel. J'aimerais bien continuer des recherches. Et notamment, disait-il, poursuivre la pensée de Michel Foucault. Foucault était mort en 84. Et est-ce qu'on s'est rencontrés, enfin je passe sur les détails, et on a organisé conjointement un séminaire. C'est moi qui m'en occupais matériellement, et puis avec mes étudiants qui venaient de Jussieu. Et pendant 5 ans, on a fait un séminaire autour de la prison républicaine. Parce que le grand problème de Badinter, c'était la prison est un moyen de punition, et pour le moment, on n'a pas trouvé autre chose. Hein. Il venait d'abolir la peine de mort. Et à la limite même, là, il y a eu davantage de condamnations à la prison à ce moment-là, parce que, justement, la peine de mort étant abolie, les magistrats, ils condamnaient à des peines de prison lourdes. Hein. Et comment faire pour la plainte, qui est légitime, qui est normale dans la démocratie, et la prison? Et justement, lui, il pensait réinsertion. Donc, il s'est beaucoup posé de questions philosophiques et historiques. Comment est-ce que la République, notamment la Troisième République, qui a quand même une certaine longueur, comment est-ce qu'elle a traité les prisons? Et on a beaucoup travaillé là-dessus. Il a lui-même a publié un livre qui s'appelle « La prison républicaine », où d'ailleurs, il dit sa profonde déception à cet égard. Et il n'est pas loin, à ce moment-là, de rejoindre la pensée de Michel Foucault, même si il s'en différencie. Parce que il ne pense pas que la prison soit uniquement un mode de gestion des illégalismes. Il continue à penser que ça peut être un moyen de réinsertion. Mais voilà, donc c'est toute l'histoire de...
J'imagine, Michel Béraud, que pendant cette période, vous avez évidemment beaucoup lu, mais aussi peut-être visité des prisons.
Oui.
Et est-ce que les conditions de vie des femmes en prison étaient les mêmes que celles des hommes, plus dures, moins dures? Et est-ce qu'on peut comparer les types de délits pour lesquels les unes et les uns étaient condamnés?
Il y a d'abord un fait frappant, c'est que à l'heure actuelle, vous avez, et c'était comme ça dans ces années-là, ça n'a pas beaucoup changé, 96% d'hommes en prison et 4% de femmes, c'est tout. Hein, autrement dit, et c'est comme ça depuis, j'allais dire presque toujours, avec une tendance de plus en plus forte à ce que la prison soit virile. Voilà. La prison est un monde d'hommes. Et il y a peu de femmes en prison, ce qui pose quand même une très grande question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? On a essayé d'y répondre maladroitement. Mais ce qui veut dire que le statut des femmes en prison n'est pas du tout le même. C'est une minorité. Il y a peu d'établissements. Pendant très longtemps, les établissements de femmes, jusqu'à une date récente encore, ont été tenus par des religieuses. On retrouve encore les religieuses dans le monde des prisons. Et il y a la maternité. Hein. La maternité, au moins jusqu'à 2 ans, est admise en prison. Ce qui veut dire qu'il y a des enfants en prison. Il y a des lieux pour les enfants. Il y a donc un autre régime. Par ailleurs, la société considère différemment les hommes et les femmes emprisonnés. Et les hommes en prison ont beaucoup plus de visites que les femmes. Les femmes emprisonnées, c'est une minorité, mais une minorité méprisée. Une femme qui va en prison, sa famille majoritairement la laisse tomber. C'est une marginale.
Elle a fait des choses. Encore aujourd'hui?
Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Les femmes en prison, c'est pas grand, c'est peu de choses, mais c'est vraiment des femmes abandonnées par leur entourage, pas toutes naturellement, mais majoritairement, d'abord parce que les hommes vont pas les voir. Hein. Un homme ne va pas voir une femme en prison, alors que les femmes vont voir leurs hommes en prison. Dans les queues qu'il y a pour aller les visiteurs, ce sont des visiteuses. C'est toujours comme ça. Donc l'inégalité sexuelle dans la prison et autour de la prison se fait très vivement sentir. C'est un monde de la différenciation sexuelle.
Vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire des femmes, évidemment. Vous avez monté un enseignement sur l'histoire des femmes. J'ai une question un peu bateau, Michel Perrault. C'est est-ce qu'il faut être une femme pour s'intéresser à l'histoire des femmes? Est-ce qu'il faut être de surcroît féministe a priori? Ou bien, est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est en étudiant l'histoire des femmes qu'on est poussé à devenir féministe?
Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Ce sont objectivement les femmes qui se sont intéressées à l'histoire des femmes. Non pas qu'il n'y ait pas eu des hommes qui avaient écrit là-dessus, bien sûr, il y en a eu. Je pense à Lucien Febvre et Marguerite de Valois, et on pourrait citer beaucoup d'autres choses. Mais l'histoire des femmes n'était pas prise en compte dans l'enseignement de l'histoire à l'université. On n'en parlait pas du tout. Et c'est ça qui a été notre question. On s'est même mis à dire, le premier cours que nous avons fait, avec une petite équipe, c'était en 73 à Jussieu, en 1973, et on savait même pas comment l'appeler. Alors on l'avait appelé « Les femmes ont-elles une histoire ?» On avait posé la question. Et c'était évidemment une question. Et après, alors on a développé un certain nombre de thèmes. Donc, les femmes, c'est elles qui ont implanté l'histoire des femmes, bon. Ceci étant, ça a séduit aussi des hommes qui se sont dit « bah oui, pourquoi pas, c'est une bonne question ». Donc, nous avons eu des amis, des collègues, hommes, qui se sont investis dans cette histoire. Et ça a été, à ce moment-là, c'est devenu un mouvement beaucoup plus général. Et où les hommes... Aussi, je pense à Alain Corbin, Georges Vigarello ou André Roche.
Sur le corps.
Grands historiens qui ont fait l'histoire du corps, l'histoire de la virilité. Il y a une histoire de la virilité qui a été dirigée par Alain Corbin avec ceux qu'on vient de nommer. Avec le corps, avec la différence des sexes, c'est devenu un véritable sujet partagé. Ceci étant, si on faisait la statistique aujourd'hui, on continuerait tout de même à voir que les ouvrages sur les femmes sont majoritairement écrits par des femmes quand même. Mais, il y a aussi des ouvrages d'hommes, dont ceux dont je viens de parler. André Roche, par exemple, il m'en voudra pas si je dis ça, est en train de préparer un livre sur la misogynie. Ce qui est intéressant, parce que la misogynie, c'est quand même l'attitude des hommes vis-à-vis...
Mais peut-être qu'un livre sur la misogynie écrit par un homme, oui, ne dirait pas la même chose qu'un livre écrit par une femme, sur,
oui,
la même question.
Oui.
C'est un peu l'expérience de pensée que j'évoquais tout à l'heure.
Oui, c'est vrai. Mais il y a des femmes, qui peuvent être parfaitement misogynes. Et toutes les femmes ne sont pas... Vous me posiez la question du féminisme. J'y réponds maintenant. C'est pas du tout nécessaire d'être féministe pour écrire sur l'histoire des femmes, bien entendu. Mais il est vrai aussi que les questions sur cette histoire sont venues d'une interrogation féministe. C'est là où on retrouve le lien entre un engagement dans la cité et une écriture historique.
Mais est-ce que c'est ça que vous voulez dire, Michel Perrault, lorsque vous dites, dans le livre que je viens de citer, que l'histoire est toujours enracinée dans le présent? Est-ce que c'est des crises du présent qui invitent à s'interroger sur l'histoire?
Oui, je pense que c'est assez vrai. Marc Bloch l'avait dit d'ailleurs depuis bien longtemps. Le présent, c'est le présent qui engendre nos questions. Notre questionnement sur la cité, sur le présent, sur le passé, vient de ce que nous vivons. L'historien est un sujet vivant, Et par conséquent, il va peut-être se poser des questions sur le lointain passé. Mais ces questions, même sur le lointain passé, vont venir de ce qu'il vit actuellement. Il n'est pas obligé d'ailleurs de faire uniquement de l'histoire du présent, heureusement. Mais il va être informé, ça va lui être suggéré par ce qu'il vit dans le présent. Je crois que c'est très important.
Michel Perrault, alors, selon vous, quel genre de science est l'histoire? Je sais que c'est une question compliquée qui mériterait des heures d'entretien, mais est-ce que l'idée de vérité, vérité historique, a un sens en histoire?
Ah,
ou est-ce qu'elle doit toujours être relativisée?
Je pense que l'idée de vérité est centrale pour l'histoire, centrale. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Quelle différence y a-t-il entre les discours? Est-ce que nous pouvons aller au-delà du discours? Est-ce qu'il y a une vérité matérielle, objective, dans les événements du passé? C'est une question majeure, absolument. Ceci étant, avec une réponse modeste, parce que comment faire? Est-ce qu'il y a en effet un au-delà du discours? Non. Nous connaissons tout par des textes ou des objets. C'est pas pareil d'ailleurs. Mais des textes, par exemple. Ces textes sont des discours. Ils ont été. On les prend à plusieurs niveaux. Donc, la connaissance du passé fait le désespoir de l'historien.
Pourquoi? Parce que
il est inatteignable. À la limite, il est inatteignable. Simplement, nous le savons. Je crois que les historiens sont devenus modestes. Ils savent que ils peuvent balbutier sur ce qui s'est passé. Ils peuvent essayer de le savoir et ils le font désespérément. C'est quand même notre rôle de dire ça. Et quand on fait l'histoire de problèmes brûlants comme la Deuxième Guerre, le nazisme, l'antisémitisme, l'histoire juive, je donne ces sujets comme brûlants, on veut évidemment savoir exactement comment ça s'est passé, parce que il y a une vérité qui s'impose. Par exemple, le négationnisme est une qui nie l'existence des camps de concentration. C'est impossible. Nous savons qu'ils ont existé, nous en avons la preuve matérielle, et on est même étonné qu'on ait à le démontrer, mais encore faut-il le faire, Et il y a des questions moins brûlantes, plus compliquées aussi, peut-être moins présentes dans les objets, mais savoir la vérité, c'est très important. Alors, évidemment,
Michel Perrault, la musique qu'on entend signe qu'il y a quelque chose de brûlant, c'est l'horaire. On va être obligé de s'arrêter, j'en suis désolé. C'était un plaisir de vous recevoir. On a hâte de lire votre livre, à paraître bientôt, j'espère, sur les escaliers, l'histoire des escaliers. Mais en attendant, je recommande la lecture de votre livre paru aux éditions du CNRS, « S'engager en historienne ». C'était « La conversation scientifique » par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Alex Dang et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.